Chers auditeurs, bonjour, merci de votre fidélité à Storia Voce. N'hésitez pas à soutenir notre association. Pour ce faire, rendez-vous dans la rubrique Soutenez-nous sur notre page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Nous sommes le 8 décembre 1965 à Rome, sur la place Saint-Pierre. Après trois longues années, le Concile Vatican II a enfin terminé ses travaux. Les cardinaux, les évêques, les prêtres ont un large sourire à la sortie de la messe du pape Paul VI, une messe qui clôture cet événement dont Charles de Gaulle disait qu'il avait été le plus important du XXe siècle. Même si nous sommes à la fin de l'automne, le ciel est bleu à Rome. D'ailleurs, tout le monde considère l'événement comme une sorte de nouveau printemps pour l'Église catholique. Un texte symbolise cette journée ensoleillée, la constitution pastorale dont les premiers mots « Gaudium et Spes » signifient « la joie et les espoirs ». Cette constitution décrit les rapports de l'Église et du monde. On en oublierait presque juste après ces deux mots, suivent deux autres mots « luctus et angor », c'est-à-dire « les angoisses et les peurs ». Et il est vrai qu'après cette journée ensoleillée, l'Église allait donner l'image d'une institution qui a peur d'elle-même. Trois années plus tard, la révolution de 1968 n'épargne pas l'Église. En 1969, d'ailleurs, le journaliste Jacques Duquesne fait un état des lieux du catholicisme dans un article de l'hebdomadaire L'Express. Les fidèles, écrivent-ils, osent à peine dire qu'ils croient en Dieu. Ils ont abandonné tout prosélytisme, ils subissent simplement celui des autres, les idéologies, les modes, les slogans. Lorsque ces laïcs se tournent vers leurs prêtres, ils découvrent des hommes hantés par l'idée d'accéder à ce monde du travail que laïcs connaissent bien et qu'ils jugent monotone. Pourtant, ces laïcs ont le sentiment de garder dans le secret de leur cœur un jeu de valeurs, une explication du monde plus solide qu'on ne le croit. Mais ces laïcs ne savent comment les formuler. Plus qu'une crise de la foi, c'est une crise du langage. Les mots ne transmettent plus rien. Storia Voce vous propose aujourd'hui de comprendre comment ce processus de déchristianisation s'est développé au XXe siècle, quelle est précisément la part du Concile Vatican II dans ce mouvement. Ne doit-on pas chercher des causes bien plus lointaines à ce phénomène? En somme, la sociologie du catholicisme a-t-elle évolué avant les années 60, dans la période d'avant ou d'après-guerre? Bref, comment notre monde a cessé d'être chrétien? C'est la question que je vais poser à Guillaume Cuchet. Guillaume Cuchet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Est de Créteil, spécialiste du catholicisme. Et vous venez d'écrire donc un ouvrage au titre un peu provocateur, « Comment notre monde a cessé d'être chrétien, anatomie d'un effondrement », un ouvrage paru au Seuil. Et alors, dans les premières lignes de cet ouvrage, vous citez Hegel, qui disait « La chouette de Minerve ne prend son vol qu'à la tombée du crépuscule », suggérant par là que vous, historien, nous sommes souvent, enfin vous êtes souvent, nous sommes souvent, des oiseaux de mauvais augure. Est-ce que, en vous plongeant dans ce sujet, vous sentiez qu'il allait y avoir quelque chose qui allait vous permettre d'arriver à une telle conclusion, à un tel effondrement?
Non, je ne savais pas très bien où j'allais. Je pense que c'était un peu une intuition fondatrice de mon travail, qui est le sentiment d'appartenir à une génération qui vient un peu après un effondrement social du catholicisme. Et quand j'ai démarré dans la carrière, je sentais bien qu'il avait dû se produire un tout petit peu en amont une rupture majeure, mais à ce stade, je n'étais pas en mesure de dire ni de quand elle datait, ni a fortiori, et quelles en étaient les raisons et les modalités. Mais je crois que dans les carrières d'historien, il y a des intuitions. On est les enfants de son époque, et d'une certaine façon, on cherche à l'objectiver. C'est un peu ce que j'ai voulu rappeler avec cette citation de Hegel que j'aime bien, que je cite à mes étudiants. Effectivement, cette idée qu'il faut qu'un événement ait un peu déroulé ses conséquences pour qu'on puisse commencer à l'objectiver, à le regarder et à s'en extraire. Et je crois que c'est un peu la distance qu'on a acquise avec l'événement maintenant de cette crise des années 60 qui permet de l'analyser un peu autrement de ce qu'on a fait jusque-là.
Il y a dans les premières pages de votre livre une énumération et une description de toute cette littérature qui, depuis les années 60, décrit ce phénomène, se pose des questions. Je ne retiendrai qu'un texte, c'est celui de Cholvy et d'Hilaire, qui est un texte intéressant parce que il se pose, contre les thèses déclinistes et il voit un peu l'histoire du catholicisme comme une suite de renaissance et de décadence. Et il refuse l'idée que depuis la Révolution française, au fond, nous ne serions dans une décadence constante.
Oui, alors Cholvy et Hilaire, qui étaient deux spécialistes du 19e siècle qui nous ont quittés récemment, étaient parmi les historiens les grands disciples du chanoine Boulard, précisément, ce grand spécialiste de sociologie du catholicisme. Et après avoir suivi de près les enquêtes du chanoine Boulard, ils ont entrepris de remonter diocèse par diocèse la situation depuis les années 45-65. Et en remontant dans les diocèses, en allant chercher une documentation qui permettait de savoir ce qu'il en était avant les enquêtes de Boulard, c'est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale, et puis au XIXe siècle, la documentation permet de remonter souvent jusque vers 1840, 1830, ils se sont aperçus que la vision un peu décliniste, effectivement, qu'on avait de l'histoire du catholicisme français comme d'un processus linéaire, univoque, irréversible, et homogène dans le temps, dans l'espace, dans les régions, qu'en réalité, on découvrait des situations très contrastées, très, très diverses, et qu'il n'y avait pas eu de déclin linéaire, mais des phases, tantôt des phases effectivement de déclin, mais tantôt aussi des phases de reprise, que les contemporains eux-mêmes avaient bien senti dans leur existence, quand ils étaient nés dans un moment de déprime religieuse et qu'au contraire ils avaient quitté ce monde au sommet d'une petite vague. On voit bien, quand on va dans la documentation du 19e, qu'il y a des perceptions du processus global qui sont très contrastées, et donc ils ont été parmi les premiers, parmi les historiens français, à proposer une chronologie de ces phases, tantôt ascendantes, tantôt descendantes. Alors, moi je suis un peu un héritier, d'une certaine façon, de cette vision des choses que j'ai pu constater moi aussi dans mon propre travail, et en même temps, la limite, me semble-t-il, de l'approche de Cholvy et Hilaire, pour des raisons qui tenaient peut-être à leur information ou à leur vision un peu du monde, a été de ne pas insister suffisamment sur le fait que même quand il y avait des phases de reprise religieuse, ça se faisait généralement à l'intérieur d'un trend, d'une tendance de longue durée qui était descendante, de sorte que les phases en question se succédaient, mais deux crans au-dessous à chaque fois. Ce qui fait que ce que j'ai essayé de faire, notamment en reconstituant un peu la trajectoire d'ensemble, c'est d'arriver à penser ensemble à la fois la réalité de ces phases de reprise religieuse, et les contemporains qui les ont vécues n'ont pas rêvé, hein, et qui les ont signalées, et en même temps aussi ce trend de baissier, que personne n'a vécu dans la totalité, parce que chacun vit des séquences du trend de 60 ans, de 70 ans, mais qui est aussi un aspect majeur de ce processus. Donc, je crois qu'il faut arriver à penser ensemble Cholvy, Hilaire d'un côté, et le trend descendant, et qui a aussi une réalité forte.
Alors, vous citez aussi Delumeau, et tout au long de votre ouvrage, vous citez Pascal, qui se plaignait du fait qu'il y ait une sorte de désaffection religieuse. Là aussi, avant même la Révolution, alors on ne va pas remonter à l'époque médiévale, bien évidemment, mais avant même la Révolution, à l'époque dite moderne, il y a des périodes où, au fond, on assiste à des baisses de pratiques, et j'ai même appris dans votre ouvrage, je ne sais plus à partir de quels travaux d'historien, que un historien avait étudié une zone géographique bien particulière, et il décrivait le fait que les gens n'allaient pas systématiquement à la messe tous les dimanches.
Oui, alors je pense que vous faites allusion à ce travail d'Alain Cabantous qui avait publié il y a quelques années un travail sur l'observation du dimanche, qui montre que sous l'Ancien Régime, alors que la religion est civilement obligatoire, elle est théoriquement obligatoire, en réalité, il y a une espèce de norme qui veut qu'on y aille au moins un dimanche sur trois. Si on n'y va pas un dimanche sur trois, comme on peut avoir des ennuis, ça finit par se voir. Mais dans une société rurale où la famille aussi se partage un peu l'assistance aux offices, il y a cette espèce de norme qui est finalement assez lâche. Et je pense que la norme est beaucoup plus stricte vers 1890 qu'elle ne l'est en 1760. C'est-à-dire dans les chrétientés reconstituées du 19e siècle, on va à la messe tous les dimanches, sauf excuse canonique. Donc après, il y a la question effectivement que soulève ces références à Pascal, c'est que, au fond, le clergé se plaint toujours de la situation religieuse, quelle qu'elle soit, même quand elle nous apparaît très bonne rétrospectivement. Il en a une vision un peu qualitative, il a des normes évangéliques de haut vol, et du coup, il y a toujours matière à se plaindre. Donc, il y a plainte et plainte, il y a des plaintes, je dirais, subjectives et des plaintes plus objectives, mais ça permet de relativiser effectivement la vision un peu déploratoire du catholicisme du XIXe siècle, c'est qu'au XVIIIe, au XVIIe, au XVIe, au fond, on n'a pas cessé de s'en plaindre. C'est pour ça que le quantitatif est important, c'est que le quantitatif permet quand même de repérer des tendances. Il est évident que les plaintes de 1760 n'ont pas exactement le même objet que celles de 1820 ou 1830.
Est-ce qu'on n'a pas... ceux qui ont un peu de culture voient le catholicisme surtout avec le regard du 19e siècle, c'est-à-dire il y a eu un retour du catholicisme au 19e siècle, un catholicisme assez dur, très prude, avec des obligations strictes, alors que quand on plonge un peu dans l'histoire moderne et même dans l'histoire médiévale, on a beaucoup plus de flexibilité qu'on ne le croit dans le catholicisme.
C'est possible. Maintenant, moi, j'ai tendance à penser, compte tenu de notre pyramide des âges, que ce catholicisme du 19e siècle, et même d'un long 19e siècle, qui en un sens a pu se prolonger jusque dans les années 50, si on avait télétransporté dans le passé nos grands-mères des années 50 vers 1890, elles n'auraient pas été complètement dépaysées. Il y a une espèce de continuité un peu spirituelle et sociale, mettons, du début du 19e aux années 50. Et ce catholicisme-là, au contraire, est devenu pour nous très exotique et beaucoup parmi nous, je dirais tous ceux qui ont moins de 70 ans, n'en ont aucune idée ni archive intérieure. Et quand on travaille un peu sur ces périodes, la première sensation, c'est au contraire une sensation de dépaysement presque ethnographique quand on arrive dans la littérature religieuse des années 40, 50, 1940, 1950. Et là, il y a un petit ajustement optique à produire. Bon. Maintenant, c'est sûr qu'il y a, je dirais, aussi dans la mémoire religieuse de l'anticléricalisme aussi, une strate 19e qui joue beaucoup et qui peut peser sur la représentation de nos contemporains.
Alors, engageons-nous dans votre sujet. Tout commence avec une carte et deux noms, Gabriel Lebras et ce personnage que vous avez déjà cité, le chanoine Boulard.
Oui, alors Gabriel Lebras, c'était un laïc, qui était un spécialiste de droit canon, une vraie puissance universitaire dans la France d'après-guerre, des années 45-55. Et en 1931, il a publié dans une revue savante, qui s'appelle la Revue d'Histoire de l'Église de France, qui existe toujours, un article très important, dans lequel il disait à peu près la chose suivante. Les Français se disputent pour savoir jusqu'à quel point la société française est déchristianisée ou encore chrétienne. Eh bien, au lieu de s'envoyer des impressions à la tête les uns des autres, comptons les pratiquants et ensuite projetons-les dans l'espace parce qu'il est fort probable que chacun pouvait le savoir en se déplaçant dans l'espace, que les taux de pratique de certaines régions sont très différents des autres. Et donc il a eu cette intuition assez féconde de dire il faut que diocèse par diocèse, on compte les pratiquants, ceux qui vont à la messe le dimanche, ceux qui font leur Pâques, et qu'on en tire une espèce de carte qui, pensait-on, ferait apparaître des contrastes extraordinaires. Et il s'est lancé dans les années 30, à l'article daté de 31, il s'est lancé dans les années 30, il a commencé à rassembler les matériaux de cette enquête, il avait des correspondants dans les diocèses, il connaissait beaucoup de monde dans le clergé, mais au bout d'une dizaine d'années, au fond, alors qu'il avait publié un certain nombre de travaux intermédiaires, il n'avait pas réussi à mettre au point la carte en question, et pendant la guerre, il aboutit à une sorte de constat d'échec en constatant qu'il n'y arrive pas. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer un prêtre qui s'appelle le chanoine Boulard, qui était au départ un modeste curé de paroisse rurale, mais qui ensuite a eu des responsabilités importantes dans l'action catholique rurale, qui était un mouvement de masse, qui le mettait en contact à la fois avec les évêques et avec une grande partie du clergé. On est en 44, ils se rencontrent et Boulard se propose au fond de mener à bien l'enquête de la faire aboutir. Donc Lebras lui transfère sa documentation et de fait... Boulard, qui est un homme très méthodique et très organisé, qui a beaucoup d'entre-gens, va réussir à rassembler la documentation. Et en 1947, en novembre 1947, il publie cette carte de la France religieuse, carte rurale de la France religieuse, qui est une carte de la pratique religieuse pour l'essentiel dans la France d'après-guerre, qui est un document très célèbre, très énigmatique, qui a beaucoup fait réfléchir les historiens et les sociologues français, parce qu'on le retrouve à peu près dans tous les compartiments du jeu, de la démographie à la politique, à la culture, aux mœurs.
La sociologie.
Donc c'est une carte qui est très spectaculaire, parce que à la fois elle fait apparaître une France rurale déchristianisée plus importante qu'on ne l'imaginait à l'époque, qui court en gros des Ardennes au sud-ouest, en passant par tout le bassin parisien et l'ouest du massif central. C'est ce qu'on a appelé la diagonale du vide. Là, il y a une grande diagonale du vide complétée un peu dans la vallée du Rhône, le Languedoc, la Provence. Et puis, au contraire, des chrétientés extrêmement compactes où vous pouviez avoir des taux de pratique dominicale qui grimpaient à 90-95%. Tout le monde va à la messe le dimanche, sauf les quelques excusés canoniques. Et donc, on peut quasiment changer de monde religieux dans la France de 1947, en quelques kilomètres, si vous habitez sur la frontière, dans la Sarthe, vous pouvez, en 30 kilomètres, changer littéralement d'univers. Et donc, cette carte, cette géographie de la France chrétienne, avec un Grand Ouest, le Nord, la Lorraine, l'Alsace, les Vosges, le Jura, le Nord des Alpes, tout le rebord sud-est du Massif central, en gros, de la Haute-Loire au Tarn et à l'Aveyron, et puis les provinces pyrénéennes, en gros. Là, c'est la France chrétienne, et cette carte, avec cette distribution un peu périphérique du catholicisme français, a beaucoup fait réfléchir depuis sa première édition en 1947.
Alors, vous présentez, d'ailleurs, vous citez François Furet. J'étais très étonné de voir que François Furet était, s'interroger sur cette carte. La principale conclusion de cette carte, au fond, c'est que la déchristianisation est un phénomène qui trouve ses racines bien plus loin dans l'histoire et non pas dans les années 60 ou ce qu'on a souvent dit, l'année 1968. Or, vous présentez les travaux de Timothy Tackett. Timothy Tackett qui donne une place à la Révolution dans cette déchristianisation.
Voilà, alors la carte, et on la découvre en 1947, chacun la connaissait un petit peu à son échelle, évidemment dans les diocèses, dans les départements, chacun avait bien repéré la frontière et par où elle passait, mais on n'avait jamais découvert la carte dans sa totalité, établie de façon scientifique. Et du coup, depuis 1947, on se pose la question de savoir d'où vient la carte, avec cette géographie si singulière, et on a trouvé effectivement un élément de réponse décisif avec un ouvrage de ce grand historien américain qui est Timothy Tackett, qui est un des principaux spécialistes de l'histoire de la Révolution française aujourd'hui. Et dans les années 80, il a étudié ce qu'on a appelé la crise de la constitution civile du clergé. En deux mots, c'est quoi ? La Révolution s'est lancée dans une entreprise de réforme religieuse, de réforme de l'Église de France. Elle a tout réformé, mais elle a réformé avec l'Église de France, considérant que c'était légitimement de son ressort. Et la pièce principale de cette politique religieuse, c'était justement la constitution civile du clergé, qui prévoyait des mesures aussi radicales que l'élection des curés, des évêques, la refonte complète de la carte, des circonscriptions ecclésiastiques, etc. Et cette constitution civile du clergé a suscité pas mal de résistance immédiatement dans une partie du clergé, de sorte que les révolutionnaires ont imaginé d'exiger du clergé français un serment de fidélité qu'ils ont dû prêter dans les six premiers mois de l'année 1791. Et certains ont accepté cette constitution civile du clergé, c'est-à-dire la politique religieuse de la Révolution, et puis d'autres ont refusé. Et chacun a dû se décider en conscience, sans consigne pontificale en particulier, puisque le pape s'est prononcé là-dessus après. Donc, ce qu'a fait Tackett, c'est qu'il a projeté dans l'espace les régions où le clergé a accepté la politique religieuse de la Révolution et celle, au contraire, où il l'a refusée. Et il a retrouvé la carte Boulard. Autrement dit, cette carte de la pratique religieuse de 1947. Autrement dit, les régions où, en 1791, le clergé a refusé la politique religieuse de la Révolution sont devenues les bonnes régions religieuses du 19e et du 20e siècle. et inversement. Et donc, la carte Taquet, au fond, c'est l'acte de naissance de la carte Boulard.
Mais se pose en quelque sorte la même question que pour le Concile Vatican II que je citais en introduction, ou bien mai 68. La Révolution, est-ce qu'elle joue un rôle de catalyseur, d'accélérateur, ou au contraire, il existait déjà, avant la Révolution, une forme de déchristianisation des sociétés?
Voilà, alors évidemment, si la
c'est
carte...
C'est qui de la fout de la peau.
Exactement. Si la carte Taquet explique la carte Boulard, bah alors d'où vient la carte Taquet? Oui. C'est ça la question. Alors, les historiens français se sont interrogés là-dessus. En gros, il y a un peu deux hypothèses. Il y a une première qui ne sont pas, à mon avis, incompatibles et qu'il faut arriver à penser ensemble. La première, c'est celle qui consiste à dire, mais au fond, la Révolution a révélé une situation antérieure. Et une situation dont on sait qu'elle s'était probablement déjà mise en place très sérieusement dans les années 1760. C'est-à-dire une situation dans laquelle à la fois la religion était encore civilement obligatoire. Donc, il y avait une façade de religion obligatoire civile qui masquait un peu les contrastes, mais dans lequel il y avait déjà des contrastes de ferveur très forts d'une région à l'autre et d'un milieu à l'autre. Et dès lors que la religion est devenue une option, en quelque sorte, qu'on a enlevé le couvercle de la pratique obligatoire, on a découvert ces contrastes de ferveur antérieure qui sont devenus les contrastes de pratique du 19e et du 20e siècle. Ça, c'est un peu l'hypothèse d'un des grands disciples de Boulard parmi les historiens, qui s'appelle Louis Perroas, qui était l'auteur d'une grande thèse sur l'histoire du diocèse de La Rochelle, qui est un très grand diocèse de l'ouest de la France. Donc lui a tendance à montrer qu'au fond, cette situation révélée, découverte en 1791, existait déjà au 18e, au 17e siècle, peut-être même en amont. Donc on est tiré très, très, très en amont de la mutation. Et puis, vous avez une deuxième école de gens qui était plutôt, je pense, la thèse de Taquet, qui consiste à dire, au fond, la carte Boulard qu'on a découvert en 47 est bien née en 1791, elle n'existait pas avant, simplement, elle est née de la soudure entre elles de régions qui ont refusé la politique religieuse de la Révolution, chacune pour des raisons spécifiques. Je prends souvent l'exemple du Gard, dans le Gard, où les catholiques refusent assez massivement cette politique religieuse de la Révolution, c'est en grande partie parce que les protestants l'acceptent, parce que la Révolution les émancipe. Et du coup, j'allais dire, c'est l'effet 16e siècle sur la Révolution française, où le rejet des guerres de religion, les catholiques passent en bloc dans la partie d'en face. Dans l'Ouest, dans le Nord, dans l'Est, les raisons vont être un peu différentes. Mais chacune de ces régions y vient pour ces raisons spécifiques, mais ça soude, ça crée la carte, finalement, qui ensuite va devenir une carte structurante dans l'histoire de l'Église de France, qu'on va retrouver sur le terrain politique, dans les autres terrains. Donc l'idée, c'est que ça n'existait que par plaques et morceaux, et l'effet de la Révolution, c'est de souder ces plaques et ces morceaux, et de donner une histoire commune, au fond, à des Français dispersés dans l'espace, qui se retrouvent avec un adversaire commun, la Révolution, et qui désormais ont partie liée dans l'histoire, au 19e et au 20e siècle.
Alors revenons au 20e siècle, 1947, publication de la carte. Boulard n'arrête pas ses travaux et il continue de travailler. Plusieurs autres cartes vont insister sur cette déchristianisation. Est-ce qu'il s'en rend compte, Boulard ?
Oui, alors Boulard, il démarre un peu avec l'idée qui était très largement répandue pendant la guerre, que la situation était très critique sur le plan religieux. Il y avait eu un best-seller extraordinaire pendant la guerre en 1943, qui était le livre des abbés Godin et Daniel, « La France, pays de mission, point d'interrogation ». Et qui avait évidemment suscité beaucoup d'inquiétudes et d'effervescence apostolique dans les milieux catholiques. Cette idée que la France, qui était le pays des missions par excellence, hein, quasiment les trois quarts des missionnaires catholiques dans le monde, encore en 1950, sont français. Cette idée que la France, pays des missions, puisse être un pays de mission elle-même, ça paraissait a priori un peu étonnant. Et il y avait une ambiance très inquiète et très effervescente dans la partie missionnaire du catholicisme français au sortir de la guerre. Et c'est un peu dans ce contexte-là que Boulard s'empare du dossier sociologique pour essayer de voir jusqu'à quel point c'est vrai. Et en particulier dans les campagnes, la France étant restée un pays rural pendant très longtemps, je vous rappelle que c'est au recensement de 1931 seulement qu'on s'aperçoit qu'il y a plus de monde dans les villes que dans les campagnes en France, alors qu'en Allemagne c'est en 1890 et en Grande-Bretagne en 1850. Donc la France est un pays rural, resté un pays rural, et Boulard mène l'enquête dans les campagnes et il a tendance à relativiser un peu les inquiétudes missionnaires en disant, écoutez, dans nos campagnes, en tout cas, il en reste beaucoup. de catholicisme, même s'il y a ces contrastes très forts qui met en évidence dans la carte. Donc, sa carte, les enquêtes qu'il a pilotées ensuite pendant 20 ans, entre 1945 et 1965, pour le compte de l'épiscopat, vont plutôt, paradoxalement, le rassurer. C'est-à-dire qu'au début des années 60, il est moins inquiet qu'il ne l'était en 1945, et sa conclusion, ou ses deux conclusions, sont plutôt le fait que, somme toute, même s'il y a des pays de mission dans les campagnes françaises, il y en a quelques-uns, du côté dans l'Yonne, dans le Limousin, du côté de La Rochelle, il y a quelques tâches de mission, comme il disait, des tâches de gangrène, et dont il s'inquiétait de les voir se proliférer. Mais globalement, il rassure un peu ses commanditaires en leur disant, écoutez, la situation elle n'a jamais été idéale, hein, il n'y a jamais eu d'âge d'or, ça c'est la première leçon. Et puis, finalement, somme toute, au début des années 60, le catholicisme français reste assez puissant. Il a des défis à surmonter, et Boulard avait un peu anticipé là-dessus. Mais enfin, il y a une sorte d'optimisme qui règne à ce stade-là.
Et en fait, vous faites de l'année 1965, donc de la dernière année du Concile, un moment de rupture.
Voilà, alors ça... Oui, pardon.
Oui, et donc, pourquoi cette année 1965, alors que on observe plutôt un mouvement sur le temps long.
Voilà, alors il y a effectivement le temps long, et puis il y a cette rupture du milieu des années 60. Alors, moi je m'en suis aperçu au départ un peu par hasard, en lisant Boulard. Je suis un lecteur de Boulard depuis longtemps, et je me suis aperçu que dans les textes un peu de la fin de sa vie, il est mort en 77, à partir justement de 66, 67, à diverses reprises, il revenait sur le fait qu'alors qu'en gros, il avait conclu de 20 ans de comptabilité à la stabilité globale des taux dans la longue durée, et à cette idée qu'il ne se passait pas grand-chose en fait dans cette histoire, qui était à la fois un peu déprimant parce qu'on n'arrivait pas à redresser les courbes en dépit de tous les efforts considérables qu'on avait déployés.
Et de la démographie.
Et en même temps, donc c'était un peu déprimant et en même temps un peu rassurant parce qu'on se disait, il n'y a pas de surprise, il n'y a jamais de surprise dans cette histoire. Et puis, voilà que tout à coup, à partir des années 66-67, ses correspondants dans les diocèses lui écrivent en lui disant bah, « Écoutez, monsieur le chanoine, ça plonge, quoi, hein, c'est censé ne jamais plonger, mais là, manifestement, il se passe quelque chose. » Et ça, je m'en étais un peu aperçu en le lisant, parce qu'il en avait parlé un peu à la fin de sa vie, dans les textes de la fin de sa vie, mais discrètement, sans trop y insister. Alors du coup, j'ai en détective, j'ai demandé à aller voir ses papiers aux archives de l'Église de France à Issy-les-Moulineaux, où ces papiers sont déposés, et je me suis aperçu que ce que j'avais entreaperçu à la surface de sa production publiée correspondait en fait à une inquiétude très profonde et à un travail très approfondi qu'il avait mené dans les années en gros 68-72. Hein. Je répète, il est mort en 77. C'est-à-dire que devant ces alarmes qui lui remontaient des diocèses, de gens qui lui disaient « mais il se passe quelque chose », il a repris le collier une dernière fois pour voir si ces conclusions qu'il avait cru pouvoir tirer des enquêtes des années 45-65 étaient toujours valables. Donc il a mené une enquête très approfondie pendant quelques années. De cette enquête, il a tiré plusieurs conclusions, dont la première, effectivement, qui était le fait qu'on assistait à une rupture dans cette histoire sans rupture, et que cette histoire et cette rupture dataient probablement du milieu des années 60, c'est-à-dire qu'elle était antérieure à 68. Et déjà, dans ces années où il travaillait, 68-72, il avait en tête, tout le monde avait en tête l'effet 68 sur les courbes, en disant, chacun avait un peu son explication favorite, mais les uns disaient, bon, bah, c'est l'effet des événements de mai, les effets de déstructuration globale, y compris sur la pratique religieuse. C'était, mettons, l'explication des catholiques de droite, en gros. Et puis, en face, les catholiques de gauche disaient, c'est l'effet ou bien éviter cette encyclique du pape Paul VI de juillet 68 sur la contraception, où Paul VI, après avoir hésité, réaffirme la doctrine traditionnelle de l'Église dans ce domaine qui avait été explicitée par Pie XI en 1930. Et ça suscite une crise carabinée dans le milieu catholique. Alors, ce que permet de voir Boulard, avec ses courbes laborieusement établies, c'est que certes, il y a un effet 68, mais c'est un effet d'amplification d'une rupture qui est antérieure et qui date du milieu des années 60.
65, donc du Concile Vatican II.
Ou 66. Mmh. Alors du coup, donc du Concile Vatican II, pas nécessairement, mais en tout cas qui coïncide chronologiquement avec le concile. Et là, il a été très embarrassé d'une certaine façon, parce que c'était pas commode d'aller voir ses commanditaires épiscopaux pour leur dire, écoutez, messeigneurs, on vient de faire une réforme fondamentale et nécessaire, donc, qu'il avait suivi avec beaucoup d'enthousiasme, mais de façon totalement imprévue, cette réforme a l'air d'avoir fait décrocher nos courbes. C'était un peu ça mon point de départ, c'est-à-dire d'essayer de pousser l'enquête un peu au-delà de Boulard et d'essayer de comprendre en quoi le concile avait pu avoir un rôle au moins déclencheur de la rupture dans les courbes de pratiques religieuses.
Alors nous allons voir les causes, mais le constat que fait Boulard en 76, c'est qu'il y a une sorte de triple, il y a un triple domaine, la piété, les croyances et l'image de l'Église et du clergé qui ont été comme atteintes de plein fouet.
Oui, et ça lui est venu d'ailleurs un peu plus tard. C'est-à-dire que dans les années 72-73, il y a eu, parmi les sociologues et historiens français, une grande querelle autour du thème de la religion populaire. Cette idée que le catholicisme était en train de cesser d'être une religion populaire. Et certains s'en félicitaient en disant, mais au fond, cette religion populaire, c'est un ensemble d'habitudes sociales et de superstitions dont il est temps de se débarrasser. Et en face, c'était plutôt le point de vue de Boulard, de gens qui disaient, mais non, ça a une vraie fonctionnalité dans le système global et qu'on serait bien imprudent de s'en séparer. Et à ce moment-là, dans ces années 72-73, effectivement, il a admis que le concile avait pu constituer une rupture très profonde et déstabilisante pour toute une partie des catholiques français, à la fois effectivement dans les croyances, dans les pratiques et dans l'image du clergé, parce que le concile a été suivi d'une crise carabinée dans le clergé français qui s'est traduite notamment par des départs massifs de prêtres, de religieux, de religieuses, comme on n'en avait pas vu depuis la Révolution française. Et ça a évidemment beaucoup abîmé l'image du clergé dans une partie de la population catholique.
Donc, ces fameuses causes, comment, au-delà de cet aspect social qui est extrêmement important, comment peut-on décortiquer les causes de cette rupture ?
Alors, c'est horriblement compliqué. Moi, j'ai passé presque 7 ou 8 ans à essayer d'y comprendre quelque chose. Et j'ai souvent renoncé parce que chacun sent bien, c'est pas monocausal. Hein. Ça procède évidemment d'une combinaison de causes, dont les unes sont spécifiquement religieuses, les autres plus culturelles ou plus sociales, et la part du social et la part du religieux est difficile à pondérer et à faire. Et il faut arriver à la fois à faire l'inventaire de ces causes, à les pondérer un peu finement, c'est-à-dire à savoir quel poids il faut attribuer à chacune d'entre elles, et puis ensuite à reconstituer un peu une sorte de scénario global, d'articulation globale des causes, etc. Voilà, c'est un peu tout l'enjeu du livre. Alors, mon premier point, ça a été justement de montrer que évidemment la chronologie fait signe un peu vers la causalité et de montrer que le concile avait dû jouer un rôle plus important qu'on ne l'avait dit, non pas au sens où il aurait provoqué la rupture si ça devait signifier que la rupture aurait pu ne pas avoir eu lieu sans lui, parce que la rupture a eu lieu dans les pays de culture protestante, elle a eu lieu chez les protestants. Donc de toute façon, la rupture procède de causes globales, socio-culturelles, qui se seraient produites, mais une fois qu'on a dit ça, on ne doit pas perdre de vue le fait que, à mon avis, si le concile ne provoque pas la rupture, il la déclenche, c'est-à-dire qu'il fixe son calendrier, Et en la déclenchant, il lui donne aussi une intensité particulière dans la mesure où il représente une variation très forte des contenus prêchés et vécus du catholicisme qui a un effet déstabilisant global sur les catholiques du temps. Donc, en disant ça, j'entre naïvement, candidement sur un terrain un peu miné, parce que c'est évidemment depuis le concile lui-même, l'objet de débats très âpres entre tendances catholiques, entre tendances proconciliaires d'un côté, anticonciliaires de l'autre, chacun de ces camps ayant ses chapelles et ses sous-chapelles.
Et une troisième voie.
Et des troisièmes voies. Et du coup, ce sont des sujets un peu sensibles et chacun a un peu ses sa thèse sur le sujet, des thèses qui sont nées de l'événement lui-même et qui étaient au départ plutôt des instruments de combat avant de devenir des thèses historiographiques. Voilà. Et donc j'ai essayé, pas par sensibilité radicale socialiste, mais pour essayer de faire droit à la complexité du réel, de comprendre ce que chacun avait pu attraper de la mutation. Ça, c'est un peu mon souci, c'est de me dire, au fond, il n'y a pas d'imbéciles parmi les contemporains. Bien sûr, on voit plus ou moins clair, on est plus ou moins contemporain précisément de ce qu'on vit, au sens où on vit l'histoire les yeux ouverts. Certains les vivent la vie les yeux fermés, d'autres les yeux ouverts. Donc chacun attrape une part variable de l'événement lui-même, mais il faut quand même arriver à rendre compte même des erreurs, c'est-à-dire même des erreurs d'analyse. Une erreur d'analyse crue massivement, c'est un fait objectif pour l'histoire, c'est-à-dire qu'il faut arriver à comprendre comment est-ce qu'on a pu prendre le problème de travers, etc. Donc j'ai essayé de produit à une analyse qui permette de rendre compte de ce qui s'était passé et des perceptions qu'on en a eues sur le moment, qui elles-mêmes ont joué un rôle important dans ces affrontements idéologiques.
Mais vous auriez pu très bien incriminer à la fois les deux guerres mondiales dans la sociologie, ou après la Deuxième Guerre mondiale, le développement d'une société de consommation, surtout dans les années 60, et du fait que la nouvelle religion deviendrait peu à peu, non pas l'Église, mais le supermarché. Or, là, et ce n'est pas un hasard, si j'ai repris la longue phrase de Duquesne en début d'émission, on observe comme une crise de langage. On ne veut plus nommer les choses et on ne nomme plus, par exemple, le péché, et vous en concluez à la crise du sacrement de pénitence.
Voilà, alors j'ai insisté sur le fait qu'à mon avis, un élément qui avait été important sur le plan religieux, c'était ce que j'appelle la sortie de la culture de la pratique obligatoire sous peine de péché grave ou sous peine de péché mortel. Et ça, il faut faire un petit effort d'imagination pour comprendre à quel point c'était prégnant et structurant dans le catholicisme encore du début des années 60, cette idée que la pratique est obligatoire, que si on s'en abstient sans raison légitime, il faut en obtenir l'absolution. Et cette obligation n'est pas simplement, je dirais, une habitude sociale ou un conformisme, elle est articulée à toute une pastorale des fins dernières, du salut que l'on a à faire, et ce salut lui-même moyennant la possibilité de se perdre. Et donc la question des fins dernières, la question de la mort, du jugement, de l'enfer, du purgatoire, du paradis, était, je dirais, très centrale dans le catholicisme d'hier, dramatisait ce catholicisme, et l'un des aspects les plus spectaculaires de la mutation du milieu des années 60, moyennant toute une préparation lointaine dont j'ai reconstitué les étapes dans mon bouquin qui remonte pratiquement au XVIIIe siècle, c'est une histoire à étapes, et bien au milieu des années 60, on cesse brutalement de parler de tout ça. Tout passe un peu à la trappe, au hangar des vérités théologiques considérées comme caduques, et ça déstabilise évidemment beaucoup de gens qui se demandent un peu si c'est du lard ou du cochon. On leur a parlé avec beaucoup d'insistance jusque-là, on leur en parle plus. Ça génère un peu un effet de scepticisme, en fait, cette variation de l'enseignement officiel. De la prédication génère un effet de scepticisme qui, à mon avis, a participé de la perplexité globale du milieu des années 60. Et en un sens, le texte de Duquesne, qui est très, très bien vu de ce point de vue-là, ce silence qu'enregistre Duquesne, cette espèce de perplexité générale qui contraste tant avec les certitudes d'hier ou d'avant-hier, est l'effet de cette variation très brutale de l'enseignement.
On est sorti de la période tridentine, en fait.
En un sens, on sort de la période tridentine. C'est d'ailleurs ce qu'avait vu un peu en temps réel un grand historien qui s'appelle Alphonse Dupron dans les soutenances de thèse du début des années 60. Il disait ça volontiers, c'est un grand spécialiste du Concile de Trente. Il avait l'impression qu'effectivement, le Concile Vatican II marquait la sortie du Concile de Trente.
Vous reprenez la question de ce qu'on appelle la trahison des clercs. Donc la trahison des clercs, c'est le titre d'un des livres de Julien Bannard dans les années 30. Est-ce que vous estimez qu'il y a une sorte de refus de l'identité chrétienne par l'Église elle-même, une Église qui n'ose même plus parler de ce qu'elle est? On se souvient par exemple de la conférence d'un certain abbé Ratzinger en 64 ou 65 à Bamberg, et c'est une conférence où il tire une sorte de sonnette d'alarme et il commence à construire tout son discours sur le fameux concile des médias. C'est une chose que vous constatez, vous, le fait que il y ait eu comme une sorte de trahison des clercs.
Trahison des clercs. Ce qui est sûr, c'est que la spécificité de la période ouverte en 65 et a fortiori après 68, c'est qu'on assiste à une crise d'identité sacerdotale très forte. Le clergé existant passe par une crise d'identité carabinée, le tarissement des vocations est brutal, une corporation qui voit son recrutement s'effondrer est forcément une corporation déprimée. Hein, donc il y a une espèce de déprime, de fond de déprime dans le clergé du temps, et beaucoup de perplexité là encore chez tout un des clercs, soit jeunes et un peu moins jeunes, de gens qui ont été formés dans le monde d'hier et formés d'une certaine façon pour le monde d'hier et qui débouchent dans un monde en voie de transformation accélérée et qui se demandent au fond, à la limite, même s'ils s'étaient engagés à ça. Précisément parce que l'Église a complètement changé entre-temps et la société avec. Donc ce que j'ai appelé la trahison des clercs en enlevant les guillemets, c'était parce qu'évidemment quand Julien Binda emploie cette expression, c'est les intellectuels, la trahison des clercs, là c'est la trahison des clercs à proprement parler, c'est-à-dire effectivement ces départs, ces réductions à l'état laïque, ces départs de prêtres, de religieux, de religieuses très massifs, ça va aussi avec des mutations comme l'abandon de la soutane, qui des choses qui peuvent paraître assez secondaires mais qui en fait anthropologiquement sont très fortes.
La communion dans la main.
Communion dans la main, bon. Et donc, cette débandade d'une partie du clergé, combien, on ne sait pas trop, 15% du corps sacerdotal de l'époque, mais une débandade spectaculaire sans équivalent depuis la Révolution, ça a participé effectivement de l'interrogation générale.
Alors, crise culturelle ou bien crise spirituelle, ou bien les deux ?
Alors c'est compliqué ça effectivement, parce qu'il y a des causes sociales, il y a beaucoup de social dans cette affaire, hein. J'y insiste pas beaucoup là, mais dans mon bouquin j'en parle, c'est-à-dire qu'il y a, le fait que le catholicisme a perdu ses bastions ruraux en lien avec l'exode rural, il y a la réduction un peu démographique des familles catholiques, il y a toute cette nouvelle société des années 60 que vous évoquiez tout à l'heure, qui apparaît vraiment à partir des années 65-66, donc il y a toutes ces nappes de charriage sociologique qui tirent la crise. Maintenant, il y a une thèse célèbre sur ces dossiers d'un historien contemporain qui s'appelle Denis Pelletier, qui a eu tendance à interpréter ce qu'il a appelé la crise catholique des années 65-78 comme, je dirais, la version catholique de la crise globale de la société française, avec moyennant des spécificités liées au milieu, mais en disant, au fond, c'est une mutation globale de la société française qui produit des effets un peu spécifiques dans ce milieu particulier qu'est le monde catholique. Et je crois qu'il y a beaucoup de vrai, effectivement, dans la thèse. Simplement, ça ne permet pas de faire tout à fait justice à l'effet concile et à la mutation religieuse délibérément actée par le catholicisme de cette époque.
Qui est l'ouverture.
Qui est cette ouverture, qui était probablement une ouverture nécessaire, mais qui a généré beaucoup d'interrogations dans le catholicisme du temps. Donc je dirais crise culturelle, certainement, mais aussi crise spirituelle liée à cette variation très forte de l'enseignement catholique survenue à ce moment-là.
Alors, il y a une chose qui m'a absolument étonné, c'est que je ne savais pas que Jacques Le Goff, lorsqu'il publie La naissance du purgatoire, il demande aux autorités pour voir s'il n'y avait pas d'hérésie. C'est assez incroyable, parce que d'un côté, on a un historien, un homme qui sait, un monument de l'histoire intellectuelle française qui demande une sorte de nihil obstat, et l'autre côté, on a une société qui, elle, souhaite s'ouvrir et devient au fond un peu matérialiste. Il y a la notion de devoir aussi, vous expliquez bien que les sociétés pensent davantage en termes de droit plutôt qu'en termes de devoir et encore moins d'obligation.
Oui, alors moi, Jacques Le Goff avait une éducation très pieuse par sa mère, hein. Et effectivement, cette petite anecdote que je raconte, parce que c'était le père Gilles, qui était un grand dominicain spécialiste de liturgie, qui m'avait raconté ça quand je faisais ma thèse sur le purgatoire, en me disant que Jacques Le Goff lui avait demandé de relire son grand livre sur la naissance du purgatoire pour voir s'il n'y avait pas d'hérésie. Donc c'était pas simplement, je crois, pour une boutade. Mais oui, un des aspects, au fond, que vous évoquez, c'est que le concile, au fond, provoque une sortie de la culture du devoir religieux ou des devoirs religieux, et ça n'est là qu'une des modalités d'une sortie globale de la culture du devoir et de l'obligation. En un sens, le monde scolaire, le monde universitaire, va connaître un peu les mêmes processus peu de temps après l'Église. Et l'Église n'est pas à la traîne dans ce domaine. Hein. Elle a, je dirais, provoqué volontairement, à la faveur du Concile, une sorte de modernisation de sa culture religieuse qui est passée par la sortie de la culture du devoir. Mais évidemment, quand on lève les obligations, on prend le risque de perdre une partie de sa clientèle dans l'opération, et c'est en partie ce qui s'est passé.
Nous arrivons peu à peu, Guillaume Cuchet, au terme de cette émission. Vous mettez en regard les deux thèses, au fond, la thèse traditionnaliste qui accuse le Concile Vatican II, mais pas seulement, aussi les mœurs, le relâchement des mœurs, etc. Et vous mettez cette thèse en regard avec l'autre thèse plus progressiste, celle qui était développée notamment par Jean Delumeau, sur la nécessaire adaptation de l'Église aux sociétés.
Oui, ben c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il me semble que ces deux thèses contiennent une part de vérité, c'est-à-dire qu'elles font droit à une part du processus, mais qu'il faut arriver à les penser ensemble et à produire peut-être, à apporter des éléments d'analyse complémentaires qui permettent de comprendre dans quel cadre elles ont émergé. Mais je crois que la part de vérité de la thèse traditionnaliste, c'est d'avoir senti que le Concile avait un rôle majeur dans cette histoire, même si le rôle en question n'était probablement pas tout à fait celui que les traditionalistes imaginent. En ce sens, ils ont raison sur la chronologie, mais ils ne savent pas très bien pourquoi ils ont raison. Ou plus exactement, leurs explications maison me paraissent pas permettre de faire le tour de la question. Et inversement, la question de Delumeau, il y avait une tendance un peu à négliger le coût de la mutation, le coût immédiat de la mutation, en tablant sur les effets positifs à moyen ou à long terme qu'elle aurait. Et ça, on voit que dans les milieux d'église, chacun est un peu sensible en fonction de sa clientèle et de sa sensibilité aux effets de la mutation.
Eh bien, merci beaucoup, Guillaume Cuchet, d'avoir répondu à notre invitation. Donc, je rappelle le titre de votre livre, « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ? Anatomie d'un effondrement », un ouvrage paru au Seuil dans la collection « La couleur des idées ». Je cite également le livre d'un autre spécialiste de l'Église, Yves Chiron, « L'Église dans la tourmente » de 1968, paru chez Arthège, qui analyse, lui, en fait, l'entrée des différentes idéologies au sein de l'Église, et notamment la théologie de la libération. Merci beaucoup, chers auditeurs. Restez fidèles à Storia Voce. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous et à nous soutenir. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des grands entretiens de Storia Voce.